de la montagne, elle te parle.
Soyez les bienvenus. Vous êtes à l'écoute de l'émission H1000. Durant 30 minutes, je vous amène pour une randonnée sonore en montagne. Le son remplace l'image. Soyez prêts pour le départ. Mon sac à dos est rempli de son.
Nous souhaitons un agréable voyage.
On se sent toujours ému de parfois ce que la nature peut te donner.
Auditeurs, auditrices, soyez les bienvenus. Vous êtes dans la forêt ariégeoise. Et pour cette carte postale sonore, je suis en compagnie d'Alain. Alain, ce n'est pas un habitué de la montagne, mais il me semble toujours important de pouvoir partager cette rando radiophonique en compagnie de quelqu'un qui peut vous donner, auditeur, auditrice, un regard nouveau.
C'est ça, ce sont les coups de bec des pics noirs.
D'accord.
C'est très organisé. C'est un peu comme le patron d'EDF en haut là, qui a creusé le gros trou et qui prend la cime de l'arbre mort. Et en contrebas,
ils font le sale boulot.
Pas le sale boulot. Ils appellent ça des niches écologiques. Je ne pourrais pas te l'expliquer en détail. Mais grosso modo, c'est un écosystème. En haut de l'arbre, l'oiseau le plus fort va gérer sa place. Et successivement, les autres vont gérer le bas du tronc. Voilà, à divers étages inférieurs.
Chacun sa place.
Tout est organisé. Ça se passe bien. Ça se passe bien.
Il y en a quand même un qui est en haut de l'échelle. Moi, je le vois comme ça. Ça, c'est ma sensibilité.
Et tout à fait.
Donc, le plus fort est toujours en haut. C'est pas comme si on disait une semaine l'un, une semaine l'autre.
L'alternance.
Mais oui.
Ça existe chez les loups.
Chez les loups dominants, c'est pas toujours le même l'alpha ?
Non. C'est-à-dire que tous les deux ans, le couple alpha
d'accord.
laisse la place à un autre couple.
D'accord.
Eh oui. On poursuit notre chemin. Meilleure condition de prise de son, vu qu'on est sorti de la petite gorge où le torrent s'est coulé. Là, c'est beaucoup plus tranquille. On est sur une piste forestière. Et moi, j'avais envie de te poser comme question, Alain, si tu étais sensible aux odeurs, aux sons, aux couleurs, c'est quoi que tu privilégies
Les odeurs, faudrait avoir un odorat bien développé, le mien. Vu que je me suis fait opérer du nez quand j'étais jeune, il est plus limité. Mais je suis sensible aux atmosphères, effectivement. Voilà, c'est difficilement explicable qu'est-ce qu'une atmosphère à un moment donné, pour employer bien le mot toulousain à un moment donné, ce qui est un bar à Toulouse, c'est comme ça qu'il s'appelle à un moment donné. Voilà, il y a une atmosphère, un contraste de couleurs, une différence entre civilisation, nature, entre bruit industriel, bruit de la nature. Voilà, c'est sensible à ces ruptures dans le temps, dans l'espace, qui font que, improbablement, on arrive à des endroits dont on n'avait pas idée et qui sont effectivement... On ressent quelque chose, voilà, on ressent, on peut s'imprégner. Tiens, il y a quelques centaines d'années, quand les gens étaient comme ça, il y a des gens qui ont dû passer ici, comment ils vivaient, comment eux arrivaient à faire, et probablement qu'ils étaient beaucoup plus adaptés que moi à ces conditions. Mais voilà, toutes ces choses-là m'interpellent beaucoup, voilà. Ces énergies, on peut dire.
Tu te sens ému, en fait ?
Pas forcément là sur le chemin forestier, mais oui, mais on se sent toujours ému de parfois ce que la nature peut te donner. Voilà, peut te donner, parfois elle te fait... Tu le disais tout à l'heure, on va passer peut-être près d'un sentier ou d'une clairière, il peut y avoir des chevreuils, voilà. Ému d'une image, mais je peux être ému parfois quand je suis en ville, quand je vois deux personnes qui se tiennent la main. On peut être ému d'être touché par quelque chose, voilà. J'aime me nourrir parfois de certaines choses, voilà, de certaines attitudes, des choses improbables qui font que... Voilà, on se dit, ben voilà, ça c'était un tout petit moment, mais aujourd'hui, voilà, il valait vraiment le coup de le vivre. Et puis si on a la chance que ce moment il est marqueur, on s'en souvient. Souvent, quand je vais quelque part, pas toujours, mais à l'étranger ou autre, ben des fois je peux retrouver un caillou par terre qui a une forme un petit peu qui me parle. Alors je prends mon petit caillou et je le mets chez moi. Et chez moi, je le mélange avec tous mes autres cailloux que j'ai trouvés ailleurs. Alors je ne me souviens plus d'où mon caillou il venait. Hein. Mais tous ces cailloux qui sont là, ben, ils font partie un peu de moi. C'est un peu mon histoire. Ils m'ont accompagné, ils sont là, ils représentent quelque chose.
Et aujourd'hui, tu vas prendre un petit caillou ?
Je l'ai pas vu encore, le petit caillou, parce que c'était pas mon idée à la base, mais voilà, c'est jamais mon idée à la base, mais voilà, si je le trouve, ça peut être un morceau de bois. Hein. fameux slogan d'une société où je n'aime pas ces préceptes où on dirige tout et on contrôle tout et on t'oblige à faire tout ce qu'on a envie de faire, mais think different, excusez mon mauvais anglais, mais penser différemment, parfois regarder sous un autre angle la scène, on n'en a pas la même analyse. Et pourtant, on peut être deux à regarder la même scène, mais si on ne la regarde pas du même sens, hein, toi Patrick, tu as choisi le mode escalade à travers le tronc, et puis moi je l'ai contourné. Voilà, vous ne pouvez pas mieux me casser une jambe. Tu es plus véloce que moi.
Oui, mais disons que on s'approprie, c'est pas qu'on s'approprie, on s'adapte chacun à son rythme à la montagne. Voilà, tout simplement. Donc certains passent par des chemins plus habituels et d'autres par des sentiers plus sauvages, un peu plus périlleux. Le tout, c'est de vivre une aventure et de prendre le temps, comme ici, de s'imprégner de l'espace, là.
Levez la tête.
Écoutez.
Tu vois ?
Il y a le bruit de fond du torrent. Les oiseaux ne chantent pas trop, parce que, comme tu peux le remarquer, beaucoup de nébulosité. Le brouillard monte. L'air froid est en train de monter. On distingue à peine le versant en face. Tout est dans le brouillard et c'est mystérieux et j'adore ça.
Là, on est sur un chemin, on ne sait pas où il va nous mener, tu ne le connaissais pas, donc mystère, hein. Est-ce qu'il va nous apporter tout d'un coup une récompense, un lieu, une image, ou est-ce qu'il va prolonger. Voilà, prendre à gauche ou prendre à droite, parfois dans la vie, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ouvre une porte ou qu'on n'ouvre pas, quel est le choix du fait, est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est un choix réfléchi? Mais souvent, ça nous apporte une conséquence.
Toi, tu as choisi ton métier, je le précise pour les auditeurs, on va dire métier de syndicaliste. Alors, je ne sais pas si c'est un métier, mais tu as choisi un peu de prendre la défense des salariés, puisque c'est ton travail. Par choix, c'était un but ou c'est juste un hasard?
Je crois que dans la vie, il y a toute une construction qui fait qu'on arrive à quelque chose parce qu'on a franchi plein d'étapes avant. Alors c'est long à raconter, mais syndicaliste, c'est pas un métier et c'est à la fois plaisant, mais on peut pas. Les gens ont tendance à réduire les personnes. Ah, tu es syndicaliste, alors avec le côté péjoratif ou positif un peu des choses de Robin des lois. Hein. Moi j'ai choisi avant tout au départ de m'occuper de personnes handicapées. Parce que je voulais être utile. Et quand je dis ça, à la base, je faisais du commerce quand j'étais jeune. On ne savait pas du tout ça, mais à un moment donné, vendre des produits à des gens qui n'en avaient pas besoin. Voilà, j'avais envie de donner un sens. Et en faisant du bénévolat, j'ai croisé des personnes et j'ai pu commencer à rentrer dans ce métier en m'occupant de personnes âgées chez les petites sœurs des pauvres. Et donc, à un moment donné, j'ai choisi le métier de l'éducateur, de s'occuper de personnes dépendantes, parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'elles. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on veut défendre les choses, parce que comme on a de moins en moins d'argent pour faire fonctionner les services, on ouvre sa gueule, forcément. Et ouvrir sa gueule, c'est défendre les conditions des salariés, leurs conditions de vie. Donc à un moment donné, bien sûr, je suis devenu syndicaliste, parce que pour ouvrir sa gueule, il faut quand même être un minimum protégé, puis il faut aller dans les instances avec la direction pour pouvoir revendiquer. Donc ça s'est fait petit naturellement, j'ai changé, mais mon métier, celui que je mets, que mes enfants mettent sur leur feuille de classe à la rentrée, c'est pas syndicaliste, c'est aide médico-psychologique. Ben, parfois, on se promène avec des amis ou autres, et puis moi, je m'arrête parce que un truc improbable, qui à la limite n'est pas censé m'intéresser. Ben, là, comme ces petits champignons construits sur le bois, là, tu vois, comme des maisons les unes sur les autres. Et là, ça me parle comme toute une société qui se serait construite là, parce qu'ils auraient pu se protéger d'être les uns à côté des autres. Alors pourquoi là et pas à côté? Voilà, moi je ne suis pas spécialiste des choses, mais voilà, là, on va regarder l'insecte qui a décidé de coloniser, qui a décidé d'habiter là. Et souvent les gens, ils prennent de l'avance, ils se retournent, mais qu'est-ce qu'ils regardent? Eh oui, mais bon, des fois, on ne vit pas sur la même planète. Voilà, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Alors on prend sa photo parce que c'est vrai que c'est joli comme lieu improbable.
Tout à fait. Regardez et écoutez la nature. Écoutez la voix. Là, tu vois, c'est des petites girolles sur le sentier. Alors, c'est intéressant ce que tu disais, parce que j'ai lu récemment sur un livre que je conseille aux auditeurs, qui s'appelle « La vie secrète des arbres ». C'est un best-seller en Allemagne. Alors, malheureusement, je ne me rappelle plus le nom de l'écrivain allemand, mais dans tous les cas, le titre, je le répète, c'est « La vie secrète des arbres ». Et en fait, il dit que les arbres auraient un caractère. Il explique. Ici, tu vois, tu as trois bouleaux. Enfin, tu as plutôt un bouleau, une rangée de hêtres. Et il dit, comment se fait-il que trois hêtres, les uns à côté des autres, il y en a un qui va tomber les feuilles 15 jours avant le second, et etc. etc. Mmh. Donc il émet l'hypothèse que les arbres, par rapport à leur force, auraient un caractère, auraient quelque chose qui déclenche avant les autres.
Mais voilà.
Tu déclenches la tombée des feuilles 15 jours avant ton
voisin. On le trouve pour nos arbres fruitiers, style nos cerisiers, tu peux avoir deux cerisiers. Il y en a toujours un, quoi qu'il arrive, il fera ses cerises plutôt. Alors qu'est-ce qui fait qu'il est plus grandi précoce? Ça, c'est vrai que peut-être que des spécialistes ont l'explication, mais en attendant, chacun effectivement agit à son propre rythme, ou même qu'est-ce qui fait que certains vont résister à la tempête ou à un grand froid et pas d'autres. C'est pareil.
Et vous, auditeur, auditrice, résisterez-vous à l'appel de la montagne, de la nature, de la forêt?
Et tu as déjà assisté au brame du cerf, donc ouais. Tu as déjà fait des prises de son pour essayer de l'entendre.
Je t'amène à mon lieu de bivouac secret. L'été. Donc ce petit foyer en pierre était déjà constitué. Là, j'ai déposé mon petit tas de bois pour l'été prochain, voire dans quelques mois, tu vois. L'autre fois, ça n'a pas tout cramé. Et donc on est au milieu d'une forêt mixte, épicéa, hêtre, sapin pactiné, noisetier, le torrent, la fougère.
Je suis ébahi par tes connaissances d'arbres, là, parce que pour moi, ils se ressemblent tous. Voilà, toi tu dis ça, c'est normal, ça se voit à l'œil. Quoi.
Oui, enfin, ceci dit, entre nous, je n'y connais rien. Je connais que quelques, allez, 5 ou 6 noms d'arbres que j'ai repérés.
Tu ne me dis pas au hasard, j'espère. Là,
non. Non, non. Moi, je suis ébahi par l'atmosphère du lieu. Tu parlais tout à l'heure d'atmosphère.
C'est vrai, il y a quelque chose. Voilà, on pourrait s'imaginer, mais j'extrapole complet, à un temps lointain de quelques centaines d'années où il y avait un lieu de vie, il y avait des bergers, un village plus bas où les hommes ou les femmes montaient pour la cueillette ou pour la chasse, et que là ils attendaient éventuellement les animaux ou venaient collecter du bois. Ouais, c'est vrai que on s'y prêterait comme une scène presque de film, 1, 2, 3 actions, et on peut s'y plonger en s'imaginant. Ouais. Et quelque part ça fait du bien, parce que je crois qu'il faut toujours quand même savoir d'où on vient. Voilà, on a des origines, on n'a pas un ADN par hasard, on n'a pas tous le même ADN, mais voilà, on a tous des origines, et de s'en rappeler parfois, même si le monde évolue, c'est important de revenir à la source.
Moi je trouve que c'est une belle conclusion, parce que quand tu dis revenir aux origines, et je pense que c'est universel, la nature c'est nos origines, et on a coupé le lien avec la nature. On peut autant s'imaginer qu'ici, il y a des gens qui vivaient, comme on peut autant s'imaginer que tu peux être à l'époque médiévale et que quasiment ici, où la forêt a très peu changé. Quoi.
Tout à fait. Voilà, donc je crois que, je ne vais pas conclure moi-même, mais indignons-nous encore de tout ce qui change et essayons de s'offusquer. Ça, c'est mon côté militant, de combattre certaines choses encore tant qu'il est possible, en se regroupant en plusieurs et en apprenant à dire non à certaines choses.
Et en l'occurrence, au gaspillage, à la destruction de la nature, mais aussi sur le plan social.
Voilà, on sait que les humains ont pu vivre en symbiose avec la nature pendant des siècles, en prélevant juste ce qu'il faut, et que aujourd'hui, en quelques décennies, pour le profit de certains, on détruit ce qu'on appelle communément le patrimoine de l'humanité. Et tu le dis aussi, puisque tu me donnais la perche à ce niveau. Socialement, voilà, certains qui nous gouvernent en minorité sont pour là toujours le profit, toujours plus d'argent. Et ils arrivent à convertir certains, et c'est ça m'horripile, quand d'autres, leur seul plaisir, c'est dans les magazines ou à la télé, de voir vivre comment vivent les riches. Voilà, et ça, ils s'imaginent être à leur place. Alors peut-être qu'un jour, conduire dans une belle voiture, ça doit être agréable. Mais bon, voilà, ils passent quand même à côté de beaucoup de choses, on va dire.
Notamment d'endroits, de lieux, ici. Je dirais presque mystique, en quelque sorte.
De parfois ce que la nature peut te donner.
Entendre, sentir, ressentir la musique de la nature. Ressentir, entendre. La semaine prochaine, je viendrai donc vous rechercher pour une nouvelle édition du programme H1000. Sur votre radio. Bonne écoute, bonne semaine.